Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste. C'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et pour le moment, nous sommes deux dans le studio.
C'est-à-dire la grande foule. Salut à tous, à toutes.
Au sommaire de cette émission, on a souvent parlé à l'entonnoir du pouvoir médical. Eh bien là, nous vous proposons un article d'un organisme qui représente bien ce pouvoir médical.
Ah ben on est directement au cœur de ce pouvoir-là.
Il s'agit du Conseil de l'Ordre des médecins. Un article de la revue Micrurus, volume 2. Micrurus, la revue rédigée par le collectif Médecine Libertaire, un collectif de Caen, dont on ne sait pas s'il existe toujours.
Donc, numéro paru en janvier 2018.
Exactement. Micrurus, contre la médecine et son monde. Alors, on peut y aller directement à la lecture de cet article qui est de Léon Moriba. Le Conseil de l'Ordre des médecins, l'incarnation du pouvoir médical. Un bref historique. L'idée d'un ordre chez les médecins est ancienne et apparaît avec la naissance même du syndicalisme médical dans les années 1880. Mais tandis que les syndicats de médecins apparaissent avec une certaine difficulté, considérés comme illégaux jusqu'en 1892, le Conseil de l'Ordre des médecins ne voit le jour que le 17 octobre 1940, c'est-à-dire en plein régime de Vichy. Il vient donc remplacer les syndicats, qui ne critiquent pas le principe même de l'ordre, considérés comme trop dangereux, par Pétain. Donc les syndicats considérés comme trop dangereux par Pétain est supprimé dans le même mouvement législatif. Si un ordre des médecins apparaît sous Pétain, c'est parce que la résurrection du corporatisme était au programme de la Révolution nationale du maréchal. Dès 1941, de nombreux médecins s'opposent à cette superstructure en craignant sa subordination directe au gouvernement. Ces oppositions avaient de bonnes raisons d'être, puisque le Conseil de l'Ordre de l'époque était alors ouvertement antisémite et xénophobe, pratiquant allègrement la délation et l'exclusion de nombreux médecins juifs, français ou étrangers, mais aussi l'éviction des médecins communistes et francs-maçons. Pour preuve, le Conseil de l'Ordre des médecins impose un numerus clausus pour l'exercice de la médecine par les médecins juifs, les listes ainsi constituées ayant pu ultérieurement être utilisées par les services de police pour des arrestations. Et en 1943, l'Ordre des médecins fait pression sur les médecins afin qu'ils ne rédigent pas de certificat qui empêcherait de faire le service de travail obligatoire, le STO. De Gaulle dira dans un premier temps qu'il s'agit d'un, je cite, « clan de fascistes à la solde d'Hitler et Pétain ». Fin de citation. Puis acceptera la création d'un petit frère après la libération. En effet, dissous à la libération, il renaîtra rapidement le 24 septembre 1945. Sa résurrection est permise par des communistes. Le ministre de la Santé, pour la première fois non médecin, était communiste, et de nombreux médecins favorables à un retour de l'ordre étaient également des communistes. Mais aussi des syndicats de médecins, favorables à un ordre, puisque persuadés que ce seront eux qui en prendraient le contrôle, et d'anciens médecins nostalgiques de Vichy. C'est cette coupure de quelques années qui fait dire aux défenseurs de l'ordre actuel qui n'a rien à voir avec l'ordre né sous Pétain. Alors à chaque fois, le mot ordre est avec un O majuscule. Alors, ce qui est évidemment complètement erroné, puisque les bases législatives et idéologiques sont identiques et que ce, entre guillemets, nouvel ordre est composé quasiment des mêmes membres que celui né sous Vichy. Fonctionnement officiel. Concernant son fonctionnement, il a fallu attendre 2011 pour avoir un rapport d'activité publique, ce qui montre l'opacité de ce lobby dirigé par le Conseil national de l'Ordre des médecins, CNOM. Organisé de manière décentralisée, il se compose d'instances départementales, CDOM, régional, CROM, et d'une instance nationale, le CNOM, située dans un riche immeuble du boulevard Haussmann à Paris. Cette dernière est composée d'un bureau de 16 membres, tous médecins, de 54 autres formant la commission nationale élue par les conseils départementaux, d'un représentant de l'Académie de médecine, d'un conseiller d'État désigné par le ministère de la Justice et d'un président. L'institution en elle-même emploie 541 personnes. Son financement vient des médecins actifs ou retraités qui ont l'obligation d'être inscrits au tableau de l'ordre des médecins s'ils veulent exercer. Ces derniers doivent obligatoirement débourser 330 euros par an. En fait, l'inscription au tableau, avec un T majuscule, n'est pas obligatoire pour les médecins qui n'exercent pas et pour celles et ceux qui rendent le plus de services à la République française, à savoir les médecins militaires ou encore les médecins fonctionnaires, titulaires ou titulaires dans une collectivité territoriale. Si ces derniers n'exercent pas, ce qui est très souvent le cas des médecins bureaucrates, des agences régionales de santé par exemple, ils doivent tout de même payer 165 euros par an. Si on ajoute les 90 euros par an que veulent débourser les retraités qui n'exercent plus mais qui souhaitent rester inscrits ou inscrites au tableau, on obtient au final, sur une année complète, la somme d'environ 75 millions d'euros pour cette machine. Cette dernière se dit être une interlocutrice et une conseillère des pouvoirs publics, portant ainsi l'intérêt des médecins et des patients en s'attachant à faire respecter le code de déontologie. L'ordre prétend être l'instance qui règle les questions de moralité. C'est son cheval de bataille. On verra plus loin de quelle moralité il est question. Concernant les patients et patientes maltraités ou mal soignés, il est possible de se considérer comme plaignant ou plaignante, choisir un avocat, avoir accès à son dossier et se pourvoir en cassation si besoin, seulement depuis 2010. Avant, il n'était que de simples témoins. Ce sont les conseils départementaux de l'Ordre des médecins, CDOM, qui recueillent les plaintes, pouvant éventuellement faire l'objet d'un déféré devant une chambre disciplinaire de première instance, créée auprès de chaque conseil régional de l'Ordre des médecins, CROM, et depuis peu présidée par des magistrats des tribunaux administratifs. Enfin, pour qu'une mafia fonctionne, il faut des petites mains qui obéissent au doigt et à l'œil. C'est ce qui est représenté par les conseillers ordinaux qui siègent un peu partout et s'occupent de faire vivre la déontologie, d'appliquer des mesures administratives, recensement des médecins, s'assurer de leurs bonnes compétences, d'aider juridiquement et matériellement les docteurs en médecine et leurs familles, et de les conseiller en matière d'assurance. Ces conseillers ordinaux ne sont autres que des médecins quelconques qui ont toujours été les premiers de la classe et qui adhèrent sans contrepartie financière à cette coterie. Tous les toubibs sont électeurs et éligibles, mais ce sont souvent les mêmes assoiffés de pouvoir et les mêmes conservateurs qui se présentent pour 6 ans, renouvelés tous les 3 ans. La manière dont ils sont élus est grotesque, puisque les candidats ne présentent ni programme ou profession de foi, qu'il n'y a pas d'assesseurs indépendants pour les dépouillements, et que les résultats précis ne sont jamais publiés, masquant ainsi un taux d'abstention très certainement énorme. C'est toujours marrant de constater comment les plus ardents défenseurs de la loi et de la République n'en font qu'à leur tête quand il s'agit de leurs petites affaires. Ils montrent ainsi que leur bataille n'a d'autre but que de conserver leurs intérêts de classe. Voilà, ça c'était pour le fonctionnement officiel. Et maintenant, le fonctionnement réel. Si les mesures précitées ont été mises au grand jour et actualisées, c'est parce que le pouvoir médical était allé un peu loin en termes d'abus, de mensonges et d'oppressions en tout genre. Des affaires révélatrices se sont suivies. On en citera quelques-unes. Et des scandales ont éclaté. Un des derniers en date, à titre d'exemple anecdotique, est le détournement de fonds opéré par le président du Conseil d'Île-de-France, lui-même dissous par le Conseil national, à la demande de la ministre de la Santé, en place en octobre 2007, sur les conclusions d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Toujours est-il qu'il s'est adapté aux différentes évolutions sociales et gouvernementales et qu'à plus de 70 ans, il se porte encore bien. Pour les médecins mis en cause pour leurs abus, négligence ou maltraitance, à chaque fois, de petits arrangements entre amis ont permis d'éviter les sanctions lourdes ou l'interdiction d'exercer. Que ce soit des affaires de viol, d'erreurs mortelles, de falsification de dossiers médicaux, de détournement de fric, de pub pour sa petite entreprise, de dépassement d'honoraires, etc. Tout est défendu bec et ongles par la confraternité médicale déjà révérée dans le serment d'Hippocrate que la plupart des médecins, ça dépend des facultés, doivent lire la main droite levée au moment de soutenir leur thèse. On va noter la petite note qui correspond au serment d'Hippocrate. Contrairement à ce que pensent beaucoup de médecins, le serment d'Hippocrate n'a plus grand-chose à voir avec celui écrit il y a plus de 2 millénaires. Il a été retouché à de nombreuses reprises, et la dernière en date est de 1996 par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Ce serment devrait bien plutôt s'appeler serment d'Hippocrate, étant donné le grand écart qu'il y a entre son contenu et les pratiques courantes de nombreux toubibs. Alors, suite. Au final, ce sont entre 5 et 10% des plaintes de patients qui passent le filtre que constituent les CDOM, Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Ce qui ne signifie aucunement qu'une forme de reconnaissance provenant du pouvoir médical soit obtenue, car après ce passage, il y a d'autres instances à affronter. L'Ordre des médecins est censé être une police et une justice parallèle auprès des médecins. Mais à l'instar de la police et de la justice d'État, elles sont iniques et prennent parti pour les puissants. Tout concourt à ce que l'omerta concernant une affaire, remettant en cause un toubib, perdure. Si un médecin dénonce ou abonde dans le sens du plaignant, il aura sur le dos l'ordre et d'autres confrères ou consœurs qui lui diront qu'en prenant position pour la victime, il se tire une balle dans le pied. C'est donc la suprématie du silence, laissant entendre par là que le silence est d'or ou d'ordre. Mais ce n'est pas avec tous les médecins que l'ordre ferme les yeux, soit pour montrer l'exemple, soit pour éliminer les plus rétifs à son idéologie. Cette obscure et cynique institution peut faire preuve de sévérité. L'objectif de l'Ordre des médecins est avant tout corporatiste. Il tient à préserver le petit confort et les gros intérêts de ses membres, contraints et forcés d'être fidèles aux idées défendues et aux pratiques dominantes. Si l'ordre peut punir jusqu'à la radiation, il est aussi censé contrôler la moralité du toubib lors de son inscription au tableau. Un simple entretien, rien de plus. Juste le rappel que l'ordre veille, telle une immanence suprême, juge et partie, l'ordre s'octroie donc la possibilité du deux poids deux mesures en toute impunité. Il s'agit bien d'une juridiction d'exception dont le caractère politique est flagrant. Concernant son rapport à l'État, le lien est évidemment ténu avec ce dernier. Le docteur Michel Langmann, président du Conseil national de l'Ordre des médecins de 2007 à 2013, maire adjoint de Neuilly depuis 1983, est évidemment un proche de Sarkozy. Il l'a aidé dans de nombreux dossiers, comme par exemple lorsqu'il a été question de faire passer la pilule aux lourds effets indésirables, appelée loi hôpital patient santé territoire, HPST, en 2009. En 2013, il est remplacé par Patrick Bouet, classé entre guillemets plutôt à gauche et généraliste qui plus est, ce qui est une première au sein de cet appareil de spécialistes. L'Ordre des médecins s'arrange donc parfaitement avec la couleur du pouvoir étatique en place. François Hollande, allant lui-même au premier congrès du Conseil national de l'Ordre des médecins en octobre 2014. C'est même la première fois depuis De Gaulle en 1966, qu'un président se pointe à un événement de cette envergure. Alors, une petite note sur la loi HPST. La loi HPST entérine la tarification à l'activité dans les hôpitaux, appelée aussi T2A, qui rend plus lucratif pour un établissement de couper une jambe d'un patient diabétique plutôt que de tenter de la garder via des soins longs et légers. Elle instaure aussi les ARS, qui sont des genres de préfectures sanitaires, aggravant ainsi la bureaucratie et l'autoritarisme en termes de politique sanitaire. La proximité entre l'État et ce clan se remarque également via la Cour des comptes, qui s'amuse à critiquer les activités, appuyant les bonnes choses, suivi de la profession et reconnaissance des qualifications, et faisant semblant de s'inquiéter des mauvaises qui perdurent depuis bien trop longtemps, l'absence d'inclusion de certains médecins, comme toutes celles et tous ceux qui ont des fonctions politiciennes, la défaillance concernant l'organisation des soins et le contrôle du respect de la déontologie, notamment à travers les dépassements d'honoraires.
Donc, nous allons continuer la lecture de ce texte, dont je rappelle les références. Il s'agit d'un texte intitulé « Le Conseil de l'Ordre des médecins, l'incarnation du pouvoir médical » de Léon Moriba. Texte tiré du numéro 2 de la revue Micrurus, Contre la médecine et son monde, paru en janvier 2018. Donc nous poursuivons la lecture de ce texte. Quelques bases idéologiques. Ces prises de position idéologiques se sont, au cours du temps, toujours avérées violemment conservatrices. Progressistes par opportunisme, c'est avant tout sous des signes réactionnaires qu'il s'est fait remarquer. Donc on parle toujours, bien sûr, du Conseil de l'Ordre. Et pour ne pas être embêté, l'Ordre a inscrit dans le code de déontologie l'interdiction aux médecins d'attenter à l'honneur de la profession médicale, rendant par là délicat la critique de l'Ordre par les médecins eux-mêmes. Ceci dit, il est globalement tranquille, les petits bourgeois que sont les docteurs en médecine ne sont guère politisés, ni même critiques ou rebelles. L'Ordre des médecins a toujours défendu la bourgeoisie, affichant ainsi ses connivences avec le patronat, notamment afin de mieux contrôler l'absentéisme, entre guillemets, dans les boîtes. Depuis à peine 10 ans, c'est une nouvelle bataille patronale que soutient assidueusement l'Ordre des médecins. À partir de 2006, dans un rapport sur les certificats médicaux, l'Ordre estimait qu'il était interdit à un quelconque médecin d'attester d'un lien de causalité entre les difficultés professionnelles et l'état de santé d'un patient. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez sidérant, sur lequel on va revenir d'ailleurs après. Et depuis 2007, les avocats patronaux attaquent sur le plan disciplinaire les médecins qui ont réalisé de tels certificats, mettant en avant qu'ils sont complaisants ou orientés idéologiquement. Les médecins en question sont donc convoqués par les chambres disciplinaires ordinales départementales, puis régionales, qui font ensuite remonter au niveau national pour condamner le toubib à un blâme qui engendre honte, crainte et autocensure. Au vu du nombre d'affaires de ce type, il y a une petite note qui dit l'association ASMT, Association Santé et Médecine du Travail, a recensé de son côté 40 affaires depuis 2013 dans son réseau militant, mais estime en extrapolant qu'il y aurait 100 à 200 plaintes annuelles d'employeurs contre des médecins, dont la moitié contre des médecins du travail. Donc, au vu du nombre d'affaires de ce type, le Conseil de l'Ordre a, fin 2015, changé de braquet. Vous voyez les guillemets, sa formation et ses missions permettent aux médecins du travail d'établir un lien entre la santé du salarié, son activité professionnelle et son environnement professionnel. Peut-on désormais lire sur le site de l'Ordre ? Mais la perversion est grande car il ne parle que des médecins du travail, continuant ainsi à condamner des médecins généralistes et des psychiatres qui établissent des liens entre salariat et problèmes de santé. Mais c'est aussi en remarquant le nombre d'élus chez les médecins, une des professions les plus représentées chez les députés, que l'on en déduit pour quelle classe sociale le Conseil de l'Ordre des médecins prend parti. Opposé dès sa création à la médecine de groupe pour de sombres raisons libérales et opposé au conventionnement, L'ordre a toujours tout fait pour que les médecins fassent exactement ce qu'ils veulent, comme ne pas soigner les plus pauvres ou augmenter les tarifs des consultations. C'est pour cela que, lorsque le gouvernement Valls, dans un habile jeu stratège et pervers, a voulu étendre le tiers payant aux consultations généralistes, ce qui permet de ne pas débourser les 23 euros que coûte actuellement une telle consultation, il se positionne très clairement contre en évoquant une hypothétique surconsommation médicale de la part des patients. Sans revenir sur son origine pétainiste, l'ordre des médecins s'est toujours positionné du côté du nationalisme, faisant ainsi preuve d'un certain racisme. Les exemples s'étalent dans le temps, dans la hiérarchie ordinale, et pourraient certainement se multiplier. En 1970, son président de l'époque analyse les difficultés de la sécurité sociale qui, selon lui, seraient dues, je cite, « au contrôle médical insuffisant des travailleurs étrangers qui, sauf urgence, pourraient être renvoyés dans leur pays pour y subir interventions et traitements dont nous n'aurions pas à assumer la charge ». Fin de citation. Plus récemment, en 2008, sur plainte du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Dordogne, la Chambre régionale disciplinaire d'Aquitaine a prononcé la peine du blâme contre le docteur Francis Remarque, qui s'est juste mobilisé pour qu'un de ses patients réfugiés obtienne par la préfecture un dossier lui ouvrant la possibilité que soit examiné son droit au statut d'étranger malade. En 2013, c'est le Conseil départemental des Côtes-d'Armor de l'Ordre qui a refusé l'installation à un médecin roumain qui venait, avec l'enthousiasme de la commune, exercer dans un désert médical. Prétexte, ce médecin présente, je cite, « une insuffisance au niveau de la langue ». Concernant les droits et la dignité des femmes, l'Ordre fait preuve d'un sexisme forcené ainsi que de puritanisme concernant la sexualité. Il a longtemps refusé, dans une mauvaise foi toute catholique, toute forme de contraception. En 1962, en plein débat de société sur la contraception, l'Ordre exprime dans la presse que les médecins n'ont aucun rôle à jouer et aucune responsabilité à assumer dans l'application des moyens anticonceptionnels dans les conseils au public ou dans les démonstrations relatives à l'emploi de ces moyens. Toujours dans le domaine de la sexualité, l'affaire du docteur Jean Charpentier en dit long sur la morale ordinale. En 1971, l'Ordre des médecins lui interdit d'exercer pendant un an sur le simple motif qu'il a osé diffuser un mignon tract d'éducation sexuelle à des lycéens et lycéennes. Aussi, ce clan s'est opposé à l'ouverture des plannings familiaux. On retrouve même des propos d'une grande intelligence émanant d'un conseil départemental. Je cite « Le planning nous est venu d'Amérique comme le racketing et le kidnapping ». C'est évidemment un propos d'une très très grande intelligence. Je continue. L'Ordre des médecins a également lutté contre la proposition que des médecins ont faite concernant l'accouchement sans douleur via une nouvelle méthode à l'époque appelée l'accouchement psychoprophylactique. Il s'est opposé à la loi pour l'avortement en 1974-75 et professe par la voix de son président de l'époque et en faisant référence au manifeste des 343 femmes avortées en 1971, ce genre d'horreur, je cite, « En observant la qualité nominale des 343 délinquantes, l'orthographe et la résonance de leur patronymique, je me suis rendu compte à l'évidence qu'elles n'apparaissait pas très catholique. Fin de citation. C'est aussi un propos d'une très grande intelligence. Nous continuons. On pourrait même dire que l'ordre a des relents transphobes en mettant des bâtons dans les roues aux personnes qui veulent passer d'un genre à un autre via la chirurgie. En effet, il existe un « diagnostic absolu », entre guillemets, réalisé par un psychiatre avant de donner son accord pour une intervention. À ses marges, en 2013, certains se lâchent, comme l'atteste ce propos du président du conseil départemental de l'Hérault, Patrick Wolff, qui s'oppose au mariage gay. Je cite « Je ferai mien le slogan de ces gamins pleins de bon sens, entendu ces derniers jours devant l'école communale de mon quartier, un papa des Roustons, une maman des Nichons. » No comment. Ses positions au sujet de la fin de vie et de l'euthanasie sont dans la même veine réactionnaire. Il ne faut pas abréger les souffrances horribles de personnes qui ne demandent pourtant que cela. Et lorsque pratique pourtant courante bien qu'officieuse, un médecin se fait attraper les doigts sur la seringue de morphine, on verra plus loin dans le texte comment il est traité par le Conseil de l'Ordre. En y regardant de près, s'il y a bien une ligne politique qu'il suit les yeux fermés, c'est celle de l'industrie pharmaceutique. Même s'il s'en défend malignement, comme l'attestent ses revendications récentes pour que la « transparence » entre guillemets soit faite à propos des conflits d'intérêts des « toubibs » qui trafiquent avec les labos pharmaceutiques, il favorise une médecine froide et uniquement allopathique, c'est-à-dire uniquement basée sur les médicaments, ou alors une médecine technique et inhumaine, comme l'attestent les différents numéros du bulletin de l'Ordre national des médecins qui promeut la télémédecine. Cette dernière permet, entre autres, de faire des consultations via un écran. Elle est surtout employée en zone rurale pour les personnes âgées qui, en institution, après 10 heures de télé par jour, peuvent passer d'un présentateur télé à un médecin qu'elle ne rencontrera jamais physiquement. Résolument technophile, l'Ordre s'intéresse aussi grandement à la e-santé ou santé numérique qui fonctionne avec les technologies de l'information et de la communication, notamment parce qu'il y voit une concurrence affreuse à son monopole. Santé numérique, d'accord, mais toujours avec le contrôle du médecin, pense-t-il en filigrane. Bien que le Conseil de l'Ordre des médecins prétende à tout bout de champ que, quoi qu'ils défendent, c'est avant tout dans l'intérêt des malades, ces derniers n'ont en réalité jamais voix au chapitre. L'exemple de l'accès au dossier médical personnel, que l'Ordre voudrait appeler dossier informatisé de coordination des soins, et qu'il faut traduire par fichage généralisé, donc, cet exemple de l'accès au dossier médical personnel montre bien comment le malade est considéré. En effet, outre le fait que l'Ordre ne souhaite pas que les gens puissent le consulter complètement afin de le garder pour lui et les différentes instances de contrôle, il évoque aussi un consentement implicite, entre guillemets, quant à sa création. Des résistances possibles ? Concernant les partis politiques, le PS de Mitterrand s'est bien cassé les dents sur la confrérie médicale. Malgré la belle promesse de supprimer, entre guillemets, l'ordre des médecins, inscrit dans son programme de 1981, rien n'a été fait, et c'est non seulement parce que cette institution a un fort pouvoir d'influence, mais aussi parce qu'elle permet surtout au gouvernement d'avoir une mainmise sur la profession médicale. Lorsque le PS a repris le pouvoir en 2012, le Conseil de l'Ordre s'est un peu déguisé. mais sur le fond, il reste bien en place et s'arrange parfaitement avec les gouvernements pour tenter de conserver ses intérêts et le monopole du pouvoir médical. Dernièrement, il travaillait main dans la main avec le ministère de l'Intérieur afin de dénoncer certaines personnes en voie de radicalisation. Pour les individus qui voudraient se lancer dans le bourbier judiciaire ordinal, par exemple pour mettre un toubib violent hors d'état de nuire, ils doivent avoir en tête que même si une plainte est rejetée dans un premier temps par les CDOM, il est possible de faire appel auprès de la Chambre disciplinaire nationale, CDPI, elle-même indépendante du CNOM. En théorie. Car en pratique, même si c'est un conseiller d'État qui préside, tous les autres membres sont des médecins élus par le CROM, ce qui laisse de la place à la solidarité de classe et ou de caste. Le cas qui illustre le mieux cette connivence entre chambre disciplinaire et conseil d'État est l'affaire très médiatisée du docteur Bonnemaison, qui s'est vu interdire d'exercice alors que la justice ne l'avait pas encore jugé et qu'elle acquitta par la suite en première instance. Voilà les propos qu'il aurait tenus. Je cite, « Quand je suis passé devant la chambre disciplinaire à Bordeaux, personne ne m'a posé de questions. Il n'y a eu aucune discussion possible. Ils m'ont radié sans savoir ce qu'il y avait dans le dossier. » Fin de citation. Et le Conseil d'État a bien sûr confirmé cette radiation, révélant par ailleurs la position réactionnaire sur la thématique de la fin de vie du Conseil de l'Ordre des médecins. Il y a bien quelques médecins réfractaires qui ont tenté de ne pas payer les cotisations et de dénoncer cette corporation. Mais cela se fait faiblement puisque l'Ordre porte plainte automatiquement quand un praticien ne paie plus et peut persécuter ses opposants. Certains se sont alors constitués en association afin de rassembler leurs forces et de se faire plus visible. L'association Contre-Ordre, basée à Rennes, semble la plus intéressante. Elle a réalisé une action coup de poing en juin 2012 après 5 ans de refus de paiement de cotisations et une longue bataille judiciaire. Diffuser les informations que l'Ordre des médecins cherche à dissimuler, démontrer son iniquité, son corporatisme et son fonctionnement autoritaire, lutter contre son idéologie abjecte et inciter chaque toubib à prendre position contre son déploiement sont des propositions permettant l'instauration d'un rapport de force qui pourra faire plier ce cancer institutionnel. Point final de donc cet article tiré de la revue Micrurus numéro 2, paru en janvier 2016 et intitulé « Le Conseil de l'Ordre des médecins, deux points l'incarnation du pouvoir médical » et écrit par Léon Moriba.
Voilà, mais nous vous conseillons, ce texte, vous pouvez vous l'approprier si... puisque la revue Micrurus se vend à la librairie, par exemple, la librairie du Monde Libertaire, Publico, 145 rue Amelot, 75-011, Paris.
Par la suite, juste en speed, on reprendra cette revue et on reprendra beaucoup des articles qui la composent.
Alors, pour corroborer les propos tenus dans cet article, nous avons, dans le prolongement de cet article, un exemple que nous avons trouvé datant de 2016 d'un médecin du travail qui a été mis en cause par l'Ordre des médecins. C'est un communiqué pour la constitution d'un comité de soutien au docteur Djemil, donc c'était en 2016. Le docteur Karine Djemil, médecin du travail, est intervenu pour protéger, par des inaptitudes, deux salariés en grande souffrance qui ont poursuivi leurs employeurs respectifs pour harcèlement sexuel. Les employeurs mis en cause, fidèles à leur stratégie habituelle, ont porté plainte devant l'Ordre des médecins contre le docteur Djemil pour ses études du poste appartenant au dossier médical. sans instruction contradictoire des faits, et alors qu'elle avait demandé vainement le report de l'audience, car son avocat était empêché, le docteur Jemil a été condamné en première comparution devant l'instance disciplinaire régionale du Conseil de l'Ordre à une peine exceptionnellement sévère de 6 mois d'interdiction d'exercice. Le docteur Jemil a fait appel de cette condamnation, estimant que ses considérants contiennent de nombreuses imprécisions et irrégularités, des termes subjectifs qui font douter de l'impartialité de l'instance et témoignent de sa défense sans discernement des employeurs au détriment des patientes concernées. Quelques jours après cette décision, par une initiative sans précédent à notre connaissance, dit l'article, le président de l'instance disciplinaire régional, magistrat non médecin, a dénoncé au Conseil départemental de l'Ordre, CDOM, par courrier électronique, le docteur Jemil comme relevant d'une expertise psychiatrique au motif subjectif qu'elle aurait interprété des faits et des attitudes anodins en leur prêtant une connotation sexuelle assez délirante. Autrement dit, le diagnostic est déjà posé. Nous sommes en pleine confusion des genres et en plein conflit d'intérêts. C'est sur ce simple mail, relayé formellement par un membre du CDOM, que ce conseil a pris la décision d'imposer cette expertise. La décision est publiée sans être accompagnée du décompte des voix, l'un de ses membres ayant à la fois demandé l'expertise et pris en outre part à la décision qu'il a lui-même signée. Cette possibilité d'expertise est exceptionnellement mise en œuvre et rarement décidée quand ce sont des patients qui en font la demande. Les employeurs semblent bénéficier d'une attention particulière par des institutions dont beaucoup de membres sont eux-mêmes employeurs. Ce n'est que dans un pays totalitaire qu'on utilise la psychiatrie comme moyen de réception des opposants. Ça fait partie du communiqué pour la constitution d'un comité de soutien au docteur Jemil, donc c'est un texte collectif. Ces institutions de l'ordre des médecins d'un autre âge, habitées par une volonté de puissance qui n'est plus de saison au XXIe siècle, devraient en être conscientes avant de s'enfoncer dans une spirale fatale à leur existence même. Une autre facette de cette affaire mérite attention. Alors que le corps médical se rapproche de la parité, en 2010, plus de 40% des médecins étaient des femmes, les institutions de l'ordre et leurs instances disciplinaires ne reflètent pas cette composition et sont majoritairement composées d'hommes. Le président de la République avait, à sa demande, reçu un rapport sur l'observation de la parité dans ses conseils afin de porter remède à cette anomalie. Précisément, les protagonistes actifs de cette affaire, de par leur sexe et leur appartenance sociale, ne sont peut-être pas particulièrement les mieux placés en matière d'impartialité. En effet, le docteur Jemil est un médecin femme. Les salariés sont des femmes, ayant poursuivi pour harcèlement sexuel leurs employeurs qui sont des hommes. Cette curieuse procédure relèverait-elle d'un préjugé sexué et d'un déni masculin ? Faut-il croire que toutes les femmes qui se disent victimes de harcèlement sexuel ou de viol sont des hystériques affabulatrices et celles et ceux qui leur portent assistance médicale de dangereux démons ? Ces faits porteurs d'iniquité méritent d'être explorés par une justice impartiale et devraient inciter la ministre de la Santé à cesser sa politique de l'autruche devant la multiplication irrationnelle des poursuites des conseils de l'ordre suite à plaintes d'employeurs qui révèlent de profonds dysfonctionnements de ces institutions. C'est pourquoi, donc, disait le communiqué, nous appelons les organisations et les associations soucieuses des droits de l'homme et de la justice qui luttent contre les discriminations de genre à constituer avec nous un comité de soutien à ce médecin. C'est un communiqué issu de l'association SMT. Et c'est signé par le docteur Alain Carré et le docteur Dominique Huez. Eh bien, nous allons passer à autre chose et entre-temps, une plage musicale. C'est L'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4. Respectivement System of a Down qui chantait Science et The Ramones Give Me Shark Treatment. Et c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et bien pour finir, deux annonces. D'abord, une qui émane du réseau d'entente de voix France. Écoutez les voix et soyez prudents avec les médicaments. Forum avec le docteur Dirk Korstens. Et ça se passera le 30 mars 2019 à 14h à la Cité de la Santé à la Villette. Et donc, ce forum sera précédé d'une AG ouverte de l'association et du réseau d'entente de voix au même endroit, cité de la santé à la Cité Sciences de la Villette. Alors, le commentaire du Rêve France pour cet événement. Suite de notre série de forums autour du thème des médicaments psychiatriques avec la perspective offerte par Dirk Korstens, écoutez les voix et soyez prudents avec les médicaments. Alors, Dirk Korstens, dès le début de sa carrière de psychiatre social et psychothérapeute en 1992, a étroitement collaboré au projet Hearing Voices de Marius Rome et Sandra Escher à l'Université de Maastricht aux Pays-Bas. Il travaille actuellement au MedGZ à Roermond au sein d'une équipe de soins intensifs à domicile. Il fut président d'Intervoice de 2009 à 2016 et en est actuellement vice-président. Donc ce sera le 30 mars à 14h à la Cité des Sciences, Cité de la Santé à la Villette. Et puis enfin... un événement dimanche, ça se passe à Publico, dimanche 17 mars, à partir de 16h, à la librairie du Monde Libertaire, à l'initiative du groupe Libertaire d'Ivry, projection de Bon Pied, Bon Oeil et toute sa tête, 80 minutes, suivie d'une discussion avec l'équipe de l'Entonnoir, c'est-à-dire nous-mêmes. Émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire, le mercredi de 9h30 à 10h30. Bon Pied, Bon Oeil et toute sa tête a été réalisé en 1978 par Gérard Leblanc et le groupe Cinétique avec le comité de lutte des handicapés et le groupe Information Asile. Avec une grande originalité formelle, soutenant une remise en question radicale, ce film analyse les handicaps dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique, et documente la lutte des handicapés méchants, des psychiatrisés en lutte et autres trublions des années 70. Les handicaps sont souvent présentés comme étant dus au hasard ou à la fatalité. Ce film démontre au contraire les véritables causes de nombreux handicaps. Mais s'il y a tant de forceps pratiqués avec tous les risques possibles d'accident, comme ils disent, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent avant terme, beaucoup d'enfants prématurés, et ces enfants prématurés ne sont ni le fruit du hasard ni le fruit du destin, ils sont le résultat des conditions de vie imposées aux femmes. Être enceinte ne nous dispense pas de travailler debout, de tenir les cadences et de subir les mêmes conditions de transport que les autres. Les principales causes de naissance avant terme, de prématurité, sont liées à l'intensité et à la durée du travail. La prématurité, qui nécessite souvent l'utilisation des techniques de réanimation, peut créer de graves handicaps. Et c'est surtout sur les femmes de la classe ouvrière, sur les femmes des milieux populaires, que pèse le poids des accidents génétiques. Même de ceux qui auraient pu être dépistés par des examens systématiques, les anomalies chromosomiques sont souvent provoquées par des conditions de travail particulières. Orientés dès l'enfance en fonction de notre utilité potentielle, nous sommes ensuite exploités jusqu'à l'usure ou l'accident. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, pour donner un peu un aperçu du contenu du contenu de ce film. Dimanche 17 mars à partir de 16h à la librairie du Monde Libertaire, Publico, 145 rue Amelot, métro République Oberkampf ou Fille du Calvaire. Que dire d'autre sur ce film? Eh bien, qu'il a été réalisé en 1978 par le groupe Cinétique avec le comité de lutte des handicapés et le groupe Information Asile. Bon Pied, Bon Oeil et toute sa tête analysent les handicaps dans l'histoire de leur représentation et de leur contexte social et politique. Les auteurs disent « Nous ne voulons pas être intégrés, mais détruire cette société qui nous détruit pour en construire une autre où nous n'aurons pas de difficulté à nous adapter, car ce sera la nôtre. » Eh bien, pour finir, un extrait de ce film, un extrait sonore.
Rares sont les polyhandicapés vraiment complets. Il en est qui ne voient ni n'entendent, c'est bien malheureux, mais qui se déplacent comme vous et moi. Inversement, il en est qui, paralysés à vie, voient et entendent normalement. Il en est même qui ont la langue bien pendue, raisonnent comme vous et moi. Tout à l'heure, on vous donnera les définitions médicales. Pour l'instant, c'est l'aspect humain du problème qui nous intéresse. Car avant d'être des sujets de la science, les patients de ces médecins admirables et de ces éducateurs et rééducateurs pleins de dévouement, parlons-en, qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour les soigner et guérir. Avant cela, ils sont les victimes du destin, de la fatalité. Cela nous concerne aussi. Le destin ne choisit pas ses victimes. Il est des handicapés dans tous les milieux, chez les riches autant que chez les pauvres. Il en est de toutes les nationalités, chez les immigrés autant que chez les Français. Il en est de tous les âges, chez les jeunes autant que chez les vieux. Il en est de chacun des deux sexes, chez les hommes autant que chez les femmes. Cela nous concerne tous, nous qui sommes aujourd'hui bien portants, en possession de toutes nos facultés. Les handicapés ne sont pas si loin de nous. Un accident est vite arrivé qui peut nous mener en chaise roulante. Alors, ne les oublions pas, ne les excluons pas, comme dit notre ancien secrétaire d'État à l'action sociale, Monsieur Lenoir. Ils ont leur place parmi nous, ces 3 millions de femmes et d'hommes, ces 3 millions de Françaises et de Français qui n'ont pas eu de chance. Et si l'État a un rôle important à jouer dans l'organisation de leur vie, nous en avons un aussi, tout aussi important. Il faut qu'ils se sentent au chaud parmi nous, comme au sein d'une grande famille qui serait la société française. Une société toujours plus juste et toujours plus fraternelle. Il faut leur faire la vie agréable, confortable, et cela ne dépend que du cœur de chacun d'entre nous.
Liverpool est toujours qualifié maintenant. Saint-Étienne chasse les dernières chances à la bataille, mais Liverpool essaye de
changer. Voilà, c'était un extrait de ce film qu'on va voir dimanche et qu'on va commenter dimanche. Bien, ainsi se termine l'entonnoir. C'était émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
Salut à tous, toutes.
Michel.
Charognards vivent tout près de moi. Ils ont des mères et ils ont des enfants. Ils sont aussi anonymes que toi ou toi. Fais attention, ils têteront ton sang. Braves gens, bonnes gens qui aimaient tant l'horreur. Les supplier pour que les couperets tombent dur et souvent le sang, c'est pas de l'or. Je vous souhaite la vie que vous pourrez semer. Les millions que vous êtes, vous les lécheurs de sang, n'avez pas d'autre loi que la joie du plus fort. Frustrés de la souffrance, nous vous souhaitons vivants. Car nous sommes la vie, vous n'êtes que la mort. Charognards vivent tout près de moi. Ils ont des mères et ils ont des enfants. Ils sont aussi anonymes que toi ou toi. Fais attention, ils têteront ton sang. Bande de fossoyeurs derrière vos télécons, ou bandés de travers lorsque les jurés flanchent. Oh, je vous souhaite la vie, vous ne sentez pas bon. Vous êtes des truands aux couleurs de la France. Il suffit qu'un mendiant député vous cajole. Il suffit qu'un vendeur de merde musicale vous invente un cerveau avec sa carmagnole pour que vous fasse jouir les peines capitales. Les charognards vivent tout près de moi. Ils ont des mères qu'ils appellent maman. Ils sont aussi anonymes que toi ou toi. Fais attention, ils têteront ton sang. Et vous les artisans de nos beaux lendemains, tous les maîtres penseurs qui ne pensaient qu'à nous, merci beaucoup. Qui attendait demain pour fleurir les pouvoirs. Vous êtes des bourreaux par anticipation. Un jour vous régnerez, dressant des listes noires. Les tribunaux bourgeois deviendront populaires. Et la mort fauchera au nom de la lumière. Les charognards vivent tout près de moi. Ils ont des voix qui chantent le printemps. Ils ont les mains aussi blanches que toi ou toi. Fais attention, ils têteront ton sang. Et fais attention, ils têteront ton sang. Les charognards.